Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Curieux anniversaire qui se déroule cette semaine à Gdansk, en Pologne. On célèbre les 30 ans des premières élections libres qui ont vu l'arrivée au pouvoir de Solidarnosc et la chute du communisme. Pour l'occasion, 200 associations et ONG ont fait le déplacement. Mais le constat est unanime. Avec le parti PiS, droit et justice au pouvoir, la démocratie est en recul. Les aides accordées aux ONG sont en chute libre. C'est le reportage sur place de Thomas Giraudeau.
Dans ce grand forum à l'air libre, on le repère de loin. Un lion bariolé aux couleurs de l'arc-en-ciel marque l'entrée du chapiteau nommé Égalité. On y retrouve les ONG défendant les droits des LGBT, bien sûr, mais aussi des handicapés et des femmes. Alexandra Mosiowek représente le Centrum Praw Kobiet, Centre des droits des femmes.
Le précédent ministère de la Justice donnait de l'argent aux ONG qui venaient en aide aux femmes victimes de violences. Nous pouvions recevoir jusqu'à 350 000 euros par an. Mais depuis que le PiS est au pouvoir, depuis 2016, nous avons perdu cet argent. Toutes nos L'action était basée sur ces fonds publics. Nous aidions les femmes en difficulté, une aide juridique, leur trouver un avocat, payer des vacances aux enfants, payer une partie des loyers si elles décidaient de quitter leur foyer. Aujourd'hui, on ne peut plus faire tout cela.
Justification du ministère, l'association ne s'occupe que des femmes battues et pas des hommes. Même mésaventure du côté des associations pour l'accueil des migrants et des réfugiés, comme celle d'Alexandra Pouchne. Elle est avocate et aide des étrangers à obtenir l'asile.
Avant, on bénéficiait d'un fonds pour l'intégration et l'asile. C'était un fonds européen, mais distribué par le gouvernement. Cet argent a été gelé. Nous pouvions donner des conseils d'ordre légal. Il y avait jusqu'à 3 avocats en permanence dans nos locaux. Et maintenant, nous n'assurons plus que 3 permanences par semaine, alors que nous avons de plus en plus de clients, de personnes qui arrivent en Pologne et qui ont besoin de notre aide.
L'association Pro Humanum de Yolanta Lange, qui gère un centre multiculturel à Varsovie, n'a plus non plus accès aux subventions publiques.
En 2018, nous avons participé à un concours pour obtenir des fonds publics. Au final, rien n'a filtré sur le résultat ou sur les gagnants. On a appris que la totalité des fonds ont finalement été versés à des associations qui n'ont pas postulé au concours. Des organisations assez jeunes, qui n'ont pas forcément d'expérience, mais qui sont obéissantes. Elles agissent sous les ordres du politique. C'est comme ça que nous avons perdu 2,5 millions de swotés, 600 000 euros.
L'association formait les professeurs dans tout le pays contre la discrimination raciale. Aujourd'hui, seule la mairie de Varsovie les soutient, de quoi décourager d'autres organismes de participer au concours public. Barbara Wehudek préside Kobiety na Plus, une association de défense des femmes.
Il y a beaucoup de sources de financement que l'on n'a même pas sollicitées au vu de ce qui se passe sur la scène associative. On n'a aucune chance parce qu'on n'est pas une association de droite qui partage le point de vue du parti au pouvoir. Le gouvernement ne voit pas le sens de notre combat, la lutte contre la violence conjugale, mais aussi les pensions alimentaires qui ne sont pas payées par des pères de famille.
La situation s'est aggravée l'an dernier avec la création de l'Institut National de la Liberté, un organisme qui gère la distribution de près de 25 millions d'euros de subventions par an. Pour espérer en obtenir une partie, les associations doivent, selon la loi, respecter les valeurs chrétiennes et les critères d'obtention sont flous. Beata Harecka est l'auteur d'un rapport sur les ONG et leurs finances. Sa propre association a été pénalisée.
Nous avons pris part à un concours où l'on a été très bien évalué. On était sur le podium, mais il y a un nouveau critère qui fait que le ministre peut lui-même décider quelle organisation devrait obtenir l'argent pour des raisons stratégiques. C'est une décision politique, nous n'avons pas remporté les fonds.
Heureusement, les ONG peuvent compter sur certaines fondations qui compensent tant bien que mal les pertes. Sur la générosité des Polonais aussi, ils peuvent reverser 1% de leur impôt à l'association de leur choix, Beata Harecka.
On voit que chaque année, beaucoup plus d'argent est versé aux ONG via cette mesure du 1%. L'année dernière, elles ont ainsi reçu 660 millions de swotés, plus de 150 millions d'euros. Cela montre bien que le mécanisme fonctionne et que les gens sont solidaires. D'ailleurs, ces organisations se tournent aussi directement vers les gens pour obtenir de l'argent via du financement participatif sur Internet.
Un nouveau mode de fonctionnement qui touche aussi le secteur culturel. Récemment, le pouvoir a voulu reprendre en main le Centre européen de la solidarité, un gigantesque musée à Gdansk consacré à la lutte contre le communisme et le combat du syndicat Solidarnosc. Ce musée a résisté aux pressions et le PiS lui a retiré plus de 3 millions d'euros de subventions. Comme un pied de nez aux autorités, le centre en a récupéré deux fois plus via des cagnottes sur Internet.
La guerre commerciale qui sévit entre la Chine et les États-Unis a déjà fait une victime, la croissance en baisse dans le monde, mais aussi en Europe. Pas sûr que l'affrontement entre les deux géants ouvre une fenêtre d'opportunité pour les exportations du vieux continent. Et ce, alors que Pékin pose ses jalons pour son projet de nouvelle route de la soie, une nouvelle route commerciale entre l'Europe et la Chine. Dans les Balkans, l'empire du milieu est de plus en plus présent et beaucoup moins exigeant que l'Europe. C'est le reportage en Croatie de Simon Rico.
On s'active sur le chantier du pont de Pelješac au sud de la côte croate. Cet immense ouvrage d'art doit relier la ville de Dubrovnik au reste de la Croatie. En passant au-dessus d'une petite enclave territoriale de la Bosnie-Herzégovine, seul débouché sur la mer de l'État voisin. Un chantier financé grâce à des fonds européens et réalisé par Pékin. Il y a 10 ans, c'est déjà un pont, celui de l'amitié Serbie-Chine à Belgrade, qui avait marqué le début de l'implantation de l'Empire du Milieu dans les Balkans, comme l'explique Stefan Vladislaviev, chercheur au Belgrade Fund for Political Excellence.
Il y avait eu quelques relations avant, mais ça s'est vraiment renforcé à partir de 2009. Fondamentalement, ce partenariat et ce pont ont servi de modèle aux contrats qui ont ensuite été conclus pour les infrastructures. Les institutions financières chinoises fournissent des crédits à l'État serbe. Après cela, les accords conclus pour les projets les plus importants, la ligne de train à grande vitesse Belgrade-Budapest et l'autoroute du corridor européen 11, ont aussi été financés à crédit. Les autorités ont laissé entendre à l'opinion publique qu'il s'agissait d'investissements étrangers, ce qui est tout simplement faux.
Entre 2007 et 2017, Pékin a octroyé plus de 12 milliards d'euros de crédit aux pays des Balkans, surtout pour financer des projets d'infrastructures dont la région a cruellement besoin. Des prêts qui visent surtout à maximiser les intérêts de la Chine et qui peuvent même aboutir à des cas de surendettement. Au Monténégro, par exemple, le chantier de l'autoroute entre le port de Bar et la frontière serbe a fait exploser la dette et le gouvernement de Podgorica a dû augmenter les impôts et geler les salaires des fonctionnaires pour éviter la banqueroute. L'économiste serbe Katarina Zakic rappelle que les Balkans sont trop petits pour prétendre lutter à armes égales avec Pékin.
Vous savez, la Serbie compte 7 500 000 habitants. Si on compare à la Chine, c'est la taille d'une petite ville. En Chine, on parle de grandes villes à partir de 10 millions d'habitants. Donc toute la Serbie, c'est moins que ça. Il faut garder ça en tête quand on pense au très grand déficit commercial.
L'investissement chinois dans les Balkans a clairement pris un nouveau tournant à partir de 2013, quand le président Xi Jinping a lancé son pharaonique projet de nouvelle route de la soie. Pour la Chine, le financement des infrastructures dans l'Europe du Sud-Est répond à un double objectif, réduire les coûts de transport de ses exportations vers l'UE et se positionner comme un acteur incontournable dans ces pays au potentiel mal exploité. Le calcul de Pékin est simple, nous avons de l'argent et les Balkans en ont besoin pour se moderniser. Or, en finançant des projets concrets, la Chine marque des points précieux auprès de l'opinion et des dirigeants, comme le souligne Dragan Pavličević, enseignant à la Tianjiaotong Liverpool University de Suzhou.
En Serbie, il y a un besoin immense en infrastructures. La Serbie occupe une très mauvaise position dans les classements mondiaux sur la qualité des infrastructures. Lors des 10-20 dernières années, rien ou presque n'a été investi dans ce domaine. Il n'y a pas d'argent disponible pour payer cela. D'ailleurs, l'UE n'a pas fait beaucoup à ce propos dans la région. Dans ce contexte, la Chine a su se présenter comme un partenaire sur qui compter afin d'aider la Serbie à construire les infrastructures dont elle a besoin. Par ricochet, ces infrastructures pourront générer de l'activité économique, soutenir le développement et donc permettre à terme le rapprochement du pays avec les standards des pays développés. Voilà pourquoi la Chine est bien accueillie en Serbie.
Si l'Union européenne reste de loin le principal partenaire commercial des Balkans, ses dirigeants s'inquiètent et même s'agacent ouvertement de l'offensive massive de la Chine dans son aire d'influence. Le commissaire à l'élargissement, l'Autrichien Johannes Hahn, a ainsi mis en garde contre le risque de déstabilisation de la région, craignant que la Chine ne se serve des Balkans comme d'un cheval de Troie dans l'UE. Une position qu'entend toutefois nuancer Senada Celo-Chabić, analyste géopolitique à l'Institut du Développement et des Relations Internationales de Zagreb.
On dramatise clairement avec cette affirmation pour mieux faire passer un message, mais je ne suis pas d'accord. Non pas que je ne sois pas consciente de ce qui se passe, mais parce qu'il me semble que dire que la Chine veut affaiblir les Balkans pour ensuite attaquer l'Europe me semble exagéré. Je crois plutôt que les Chinois apprennent à se servir au mieux des opportunités qui leur sont offertes en matière de commerce commerce ou de politique internationale. En ce sens, je crois qu'on ferait mieux d'essayer d'apprendre de leurs méthodes pour défendre nos propres intérêts plutôt que de jouer la carte du protectionnisme. Construire des murs ou des barrières, c'est tout simplement illusoire dans un monde globalisé.
Si elle reste encore bien moindre que celle de l'UE, la présence de la Chine dans les Balkans est en tout cas de plus en plus visible et elle séduit certains gouvernements, lassés des contraintes imposées par Bruxelles sur l'environnement ou les droits humains, particulièrement en Serbie, au Monténégro et en Bosnie-Herzégovine, tous candidats à l'intégration.
Et au Portugal, la Chine vient au secours du pays pour renflouer les dettes de l'État. Ce sont les fameux Panda Bonds. À Lisbonne, Marilyn Darcy.
Le Portugal a franchi la muraille de Chine en décidant d'émettre une part de sa dette souveraine en Panda Bonds pour une valeur de 260 millions d'euros. Il ouvre un précédent dans la zone euro. Les Panda Bonds sont des obligations qui jusqu'à présent n'ont été utilisées sur le vieux continent que par des sociétés. L'État portugais s'est engagé à rembourser la Chine en 3 ans. Les Panda Bonds sont effectués en renminbi, la monnaie chinoise dont l'unité de compte est le yuan. La transaction a un caractère presque symbolique, alors que la dette souveraine du Portugal atteint 251 milliards d'euros. Mais les autorités portugaises sont formelles. C'est la porte ouverte vers un nouveau marché à la dimension séduisante pour les Portugais car ils disposent de liquidités et de solides économies. Jamais les relations luso-chinoises n'ont été aussi bonnes. Les dirigeants des deux pays multiplient les visites et Xi Jinping, tout puissant maître de l'empire du milieu, a fait le détour par ce petit territoire de 10 millions d'habitants à l'extrême ouest de l'Europe. Il a pour cela un fort intérêt, celui d'établir une étape très bien placée sur la route maritime de la soie que la Chine veut lancer. Le port de Sines, à 170 km au sud de Lisbonne, la capitale portugaise, est en partie détenu par les Chinois de Singapour. Des accords d'extension sont sur le point d'aboutir. L'adhésion aux Panda Bonds montre aussi que le Portugal s'éloigne de la position officielle de l'Union européenne prise au printemps dernier, selon laquelle la Chine est un rival dans la course pour la technologie et un adversaire systémique. Au Portugal, on hausse les épaules pendant la crise économique. En 2011, seuls les Chinois ont investi dans les secteurs clés portugais, comme l'énergie et les communications. Et le gouvernement affirme ne pas choisir les investisseurs selon leur provenance et leur idéologie. La route maritime de la soie a toutes les chances de passer par l'extrême ouest de l'Europe.
Après le port du Pirée en Grèce, les ports de Gênes et Trieste en Italie ont eux aussi ouvert grand les bras aux investissements chinois. L'Italie est le premier pays du G7 à avoir signé un accord sur la route de la soie en mars dernier. Les explications de Cécile Debarge.
La nouvelle route de la soie pourrait s'appeler en Italie la route des oranges, car c'est avec cet agrume typique de la Sicile que les deux pays ont inauguré leur partenariat. Lors de ses 3 jours de visite officielle en Italie, le président chinois a réservé une journée à la région de Catane, où se trouve la première entreprise italienne à avoir exporté lors de son premier envoi 40 tonnes d'oranges. Grâce à l'accord, les oranges italiennes volent vers la Chine, s'est vanté le ministre du Commerce, défendant la stratégie du gouvernement qui veut exporter le « Made in Italy » à l'étranger. L'image a été reprise en boucle, symbole pour beaucoup de la réussite de cet accord non contraignant signé entre la Chine et l'Italie le 23 mars dernier et qui a suscité de vives critiques. C'est le principal argument du gouvernement pour défendre l'accord. Il s'agit avant tout de booster l'économie italienne en bénéficiant de nouveaux investissements à hauteur d'une vingtaine de milliards d'euros et surtout une opportunité sans égale de faire valoir le Made in Italy sur le marché chinois. Car à première vue, sachant que le gouvernement défend la protection du marché italien et de son économie, cet accord avec la Chine pourrait sembler contradictoire. Pourtant, l'exemple des oranges illustre plutôt bien les disparités entre le discours politique et la réalité. Car l'Italie pouvait déjà exporter des oranges vers la Chine depuis 2016 par bateau. Et si les accords prévoient que cela se fasse désormais par avion pour faciliter et accélérer le transport, les producteurs n'ont aucun intérêt à le faire. Cela doublerait le prix d'achat qui s'élève déjà à 1 euro par orange pour les consommateurs chinois contre 30 centimes en Sicile, là où elles sont produites. Surtout, l'Italie est particulièrement à la traîne en matière d'exportation exportations vers la Chine, 7 fois moins importantes qu'un autre pays européen, comme l'Allemagne. En dépit des effets d'annonce et des 29 protocoles signés, dont une majorité concerne des points institutionnels, le nerf de la guerre, ce sont les investissements dans les infrastructures. Trieste et Gênes, les deux grands ports du nord de l'Italie, sont un point stratégique pour l'accès de la Chine au marché européen. Dans le port de Trieste, un nouveau terminal devrait être inauguré d'ici 2020 et son exploitation sera en partie aux mains d'une société chinoise. Pour de nombreux partenaires de l'Italie, comme l'Union européenne ou les États-Unis, la question ici n'est plus seulement économique mais géopolitique et elle a provoqué de nombreuses mises en garde à l'attention du gouvernement italien. Car l'exemple du port du Pirée en Grèce, que le pays avait dû céder à la Chine, est encore dans tous les esprits. Pas de risque, se défend le gouvernement italien. Les Chinois seront présents comme d'autres investisseurs étrangers, ni plus ni moins. Interrogé par le journal Le Monde, Sergio Razzetto, le président de la Confindustria, le MEDEF italien, voit même dans les critiques de la jalousie de la part des partenaires européens du pays. Nous risquons, dit-il, de devenir des concurrents pour les ports d'Europe du Nord. C'est pour cela que l'Allemagne, par exemple, critique ces accords.
Bonjour Eve Minot.
Bonjour Frédéric.
Nous allons voir avec vous comment Bruxelles perçoit cette offensive chinoise sur le sol européen avec beaucoup de méfiance, on l'imagine.
Oui, on peut même dire que cela grince sérieusement des dents et les récentes tractations entre le géant asiatique et le port de Trieste en Italie ont ému bien des responsables politiques. Alors que la Chine est déjà actionnaire de près de 14 ports en Europe, celui du Havre par exemple, mais aussi à Anvers ou à Rotterdam, et même l'actionnaire principal de 6 d'entre eux. Pourtant cette fois-ci, le temps de la naïveté européenne est révolu, comme l'a proclamé Emmanuel Macron lors du dernier sommet européen, c'était en mars. Même le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, s'y est mis en affirmant que la Chine était un concurrent, un partenaire, un rival avec lequel nos relations commerciales sont asymétriques.
Alors faut-il s'attendre à une guerre commerciale entre l'UE et la Chine à l'image de ce qui se passe aujourd'hui avec les États-Unis ?
Non, mais on peut dire que les États-Unis et l'Union européenne font le même constat vis-à-vis de la Chine, qu'elle ne respecte pas les règles établies par l'Organisation mondiale du commerce, qu'elle subventionne ses entreprises d'État et force à des transferts de technologies tout en gardant une maîtrise totale de son marché intérieur. Et puis il y a ce chiffre vertigineux de un peu plus de 2 milliards d'euros en 2009, les investissements chinois en Europe sont passés à 37 milliards en 2016.
Et quels sont les pays européens les plus concernés par ces investissements ?
Alors selon une étude menée par les cabinets Rhodium Group et Merix, le premier pays concerné serait le Royaume-Uni, largement en tête avec 46,9 milliards d'euros investis ces 18 dernières années devant l'Allemagne, l'Italie, puis la France avec environ 14 milliards.
Depuis 2016, l'Union européenne s'est donc dotée d'outils pour encadrer les investissements chinois sur son territoire.
Oui, très récemment, il y a 2 mois par exemple, elle a pris de nouvelles mesures comme la possibilité de sanctionner les pays qui n'ouvrent pas leur marché public dans les mêmes conditions que ceux de l'Union, d'engager une lutte contre les transferts de technologies forcées ou encore de renforcer la sécurité du futur réseau 5G depuis que le géant chinois Huawei a proposé de participer en tant qu'équipementier au déploiement du réseau.
Et qu'est-ce qui a changé alors pour que l'Europe décide de mieux se protéger ?
Eh bien, il semblerait que l'élément décisif soit le fait que de plus en plus d'entreprises allemandes de pointe soient rachetées par les Chinois. Jusqu'ici, les Allemands et les Nordiques étaient plutôt vent debout contre toute mesure protectionniste au sein de l'Union européenne. Mais le patronat allemand s'est ému du rachat de certaines entreprises et l'été dernier, le gouvernement lui-même a opposé un veto à l'acquisition d'une entreprise de fabrication de machines-outils par une société chinoise.
La Commission européenne a surtout commandé un rapport publié en mars dernier, Eve, sur l'étendue de ses investissements pour y voir plus clair.
Et oui, pour mettre en perspective la nature des investissements chinois à l'échelle du continent. Et dans ce rapport, on apprend par exemple que les capitaux chinois ne concernent finalement aujourd'hui que 3,4% des capitaux non européens investis dans l'UE, loin derrière les Américains, 34%, ou encore les Bermudes, qui arrivent en troisième position avant une ribambelle d'autres paradis fiscaux. Des investissements qui prennent diplomatiquement moins de place, dans le débat en tout cas, et suscitent moins de méfiance, mais qui, relèvent certains observateurs, mériteraient que l'on s'y intéresse. Reste tout autant.
Merci Eve Minot, à la semaine prochaine. Accent d'Europe est réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast Accent d'Europe. À demain.